Bonjour, je m'appelle Domi et je suis coach de vie autoproclamée. J'ai découvert que dans ma vie, je n'avais besoin que d'un outil pour coacher ma vie. Il s'agit de l'envie. J'ai eu envie de créer un podcast pour vous prouver que quand on a envie, on est en vie. Alors le voici. Oui, c'est bien Annie Cordy en fond sonore. J'avais envie. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2 du podcast Envie avec 3 i comme dans i. Cet épisode est la deuxième interview de cette saison. Alors j'y teste un nouvel outil d'enregistrement en visio et de montage. C'est pas encore parfait, mais on est sur la bonne voie. Et il s'agit de l'interview de Fanny, l'orthophoniste qui avait envie de devenir clown. Bonne écoute.
Alors aujourd'hui, on va mettre les points sur les i avec Fanny. Alors avec Fanny, on se connaît sans se connaître. Elle a découvert mon podcast en étant la sœur de l'amie de ma belle-sœur. Et puis on a commencé à échanger par mail, puis récemment par téléphone. On se dit qu'on est des cybercopines et c'est la première fois qu'on s'est vu en vrai avec cette interview en visio et qu'on teste ce nouvel outil. Alors bonjour Fanny, bienvenue dans l'interview des 3i. Merci d'être mon cobaye, comment ça va ?
Eh ben, ça va pas mal. Tu m'attrapes au saut du lit. J'ai pas tout à fait assez dormi et je suis pas tout à fait dans la maîtrise de ce nouvel outil dont je suis le cobaye. Mais par contre, je suis quand même trop contente de rentrer dans l'envers du décor et de retrouver ma cybercopine pour faire un truc podcast pro, quoi. Parce que ça va être en vrai, cette affaire.
Alors, l'interview des 3i, pour t'expliquer, c'est l'exploration des trois points qui structurent, selon moi, une envie. Alors, il s'agit de l'intuition, de l'imagination et de l'intention. Et donc, j'ai envie de t'interviewer avec ces 3i sur ton envie de devenir clown. Alors, je vais commencer par le i de intuition, Fanny, pour savoir comment tu as eu l'intuition de cette envie de devenir clown. Comment ça s'est présenté pour toi ?
Comment ça s'est présenté pour moi ? Ben moi, avant d'être orthophoniste, je suis allée aux Beaux-Arts et j'avais déjà un élan vers les pratiques artistiques. Et puis, en fait, je me suis dit, mais dessiner toute seule à ma table, ça ne va pas le faire. J'ai besoin de relations. J'ai envie d'être utile et d'être en lien. Et le clown faisait cette unification, faisait ce croisement entre la dimension artistique et la dimension relationnelle. Et puis, c'est aussi une affaire de rencontre, comme souvent dans ma vie, où je suis allée dans un élan très fort à un colloque de soins palliatifs pédiatriques dont le thème était la place des émotions dans la relation d'aide, dans la relation de soins. Et la question posée, c'était est-ce que c'est une entrave ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un atout, une richesse ? Moi, depuis que je me suis formée, j'ai cette intuition que la neutralité bienveillante à laquelle on nous a formés, qui est de ne pas envahir l'autre avec ses émotions, ça n'existait pas vraiment. Et donc, ce thème m'a appelée. Et puis, c'est là qu'il y a un clown, une femme clown, qui est venue décliner un peu les modalités de son travail. Elle était clown à l'hôpital. Et en fait, la première chose que j'ai entendue, c'est que ma sensibilité, qui fait partie de mon être depuis toujours, pouvait être utile aux soins et pas encombrante. Donc, je me suis reconnue dans ce portrait pour d'autres, tout le côté créatif, sensible et soins. Et ça a été un grand bouleversement. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. L'autre chose que je vivais au même moment en tant qu'orthophoniste, c'était que j'accompagnais des enfants très jeune et parfois lourdement handicapé ou avec plusieurs difficultés et qui nécessitaient qu'ils soient suivis dans un centre par plein de professionnels. Et pour la plupart, ces enfants-là étaient non-verbaux, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas avec les mots. Donc il m'a fallu aussi déployer tout un arsenal de canaux pour rejoindre ces enfants là où ils étaient avec des formes de communication diverses qui passaient par le corps, par l'état aussi émotionnel et par tout ce travail de relation. Et je l'ai vu, du coup, cette découverte du clown comme un pas de plus. C'est-à-dire que j'avais fait pendant 20 ans la face A de mon, de ma mission qui était d'explorer le langage. Et là, je rentrais dans la phase B qui était d'explorer tout ce qui précède les premiers mots et qui continue à vivre et à exister dans la communication, c'est-à-dire tout ce qui est non-verbal. Et le clown, en fait, on pourrait le définir comme un artiste de la communication non-verbale. Donc ça me collait, ça me correspondait bien. L'autre chose importante ce jour-là, c'est les retrouvailles avec Valérie, une de mes amies que j'avais rencontrée dans une association qui regroupait des personnes porteuses de handicap, leur famille et puis des amis qui voulaient juste passer du temps gratuitement avec ces familles. Et Valérie a perdu ses trois enfants de maladies dégénératives. Donc on a bien connu Victor, Tristan et Rose. Et elle était là, elle, pour accompagner d'autres familles, pour témoigner, réfléchir à l'écriture de son histoire. Et elle a pu me témoigner de ce qu'avait été le clown de l'autre côté aussi, du côté de celui qui reçoit la visite du clown. Et elle en parlait comme ça, en disant c'est vraiment le rideau de l'instant présent qui s'ouvre et tout redevient vivant. Et tout ce qui est vivant, en tout cas, peut être, peut vivre, peut exister. Et donc, on perd de vue les souffrances endurées, l'angoisse, le pronostic vital engagé dont on sait qu'il est inéluctable, et on retrouve avec à partir de ce qui est là dans l'instant, ce qui nous fait vibrer. Ces enfants ont attendu la visite des clowns hebdomadaires jusqu'à la fin, avec beaucoup de plaisir et de joie.
Du coup, c'est ces deux rencontres, ce clown et ces retrouvailles avec ton ami, qui ont vraiment nourri cette intuition, quoi, qui l'ont fait grossir jusqu'à envisager l'idée de « Tiens, bah, j'ai peut-être envie de changer de métier ou de faire évoluer mon métier. » Comment ça s'est présenté pour toi, la suite? Du coup, c'est le « i » de « imagination ». Mais voilà, comment tu as imaginé la suite en te disant « Voilà, je suis orthophoniste. Comment je vais faire pour devenir clown? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des doutes ?»
Ouais. Alors, j'ai commencé par goûter à des ateliers à droite à gauche, j'étais vraiment avide de découvrir concrètement ce que c'était. J'ai commencé à pratiquer le clown dans différents ateliers. Et il y a Jacques Lecoq qui a remis le clown théâtre en route dans les années 60 avec une formation spécifique, disait « chercher son clown ». Et en fait, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « c'est d'abord chercher son pédagogue ». Et c'est vrai que c'est un art tellement subtil, le clown, qu'il faut se trouver en sécurité pour pouvoir explorer. Donc, j'ai cherché ça. Ah oui, et ce qui m'est arrivé très, très vite, en fait, une semaine après ce colloque, j'ai vu passer une annonce d'une association là où je vis qui cherchait des clowns pour en faire leur métier. Donc, j'ai postulé à cette annonce. Voilà le premier acte concret. Ça a été de postuler à cette annonce, sauf que je n'avais jamais fait de clown. Donc, il m'a été répondu que ma pratique était quand même un peu légère, enfin qu'on entendait bien la dimension du soin et de la pratique artistique, mais le clown... Et en fait, j'ai appelé et j'étais tellement motivée que le directeur de l'association m'a dit « venez au casting ». Donc, je suis quand même allée passer, sans avoir jamais pratiqué de clown, une journée de casting avec d'autres clowns qui étaient déjà semi-professionnels. Et ça a confirmé que je voulais faire ça. Et puis, parallèlement à ça, en fait, à force de faire des stages, je me suis fait plein de copains. J'ai fait aussi des très belles rencontres. Et notamment, on a constitué un petit groupe qui s'appelait Les Huguettes. On était 5 et on voulait tous et toutes mettre du clown dans notre vie professionnelle. Donc ça a été un petit cocon où on a fait ce qu'on a appelé des lâchers de piano. C'est-à-dire qu'il y a une troupe de spectacles qui s'appelle Royal Deluxe. Et dans un de ces spectacles, il y a un moment où il y a carrément un piano à queue qui est catapulté. Et on s'est dit, en fait, pour aller jusqu'à catapulter un piano à queue, il faut quand même avoir l'idée, puis après le réaliser. Ça, c'est un truc de dingue. Donc, on a appelé ça le lâcher de piano. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va mettre sur des post-it toutes nos envies avec le clown dans notre vie professionnelle. Et là, déjà, on a vu que se regroupaient des choses soit autour de la pédagogie, de la transmission, de la formation, des choses plus autour du soin et puis des choses autour du spectacle. Et moi, j'étais un peu dans ce qui me venait, c'était plutôt la transmission et le soin direct en clinique, au lit du malade. Et ça, ça a été porteur parce que du coup, ça a permis de nommer et de faire exister l'envie concrètement. Et puis, dans ce groupe des Huguettes, donc le confinement est arrivé et une des Huguettes qui avait envie, elle aussi, qui était soignante, elle aussi, puisque infirmière puéricultrice, moi orthophoniste, on a cherché pendant le confinement des formations qui pourraient s'adresser plutôt à des personnes qui ont déjà une expérience thérapeutique, enfin dans le milieu du soin, et qui voudraient intégrer la médiation du clown dans leur approche. Parce que la plupart des formations clown s'adressent aux intermittents du spectacle qui vont, si c'est clown en milieu de soins, bah, être sensibilisés, se former à la dimension du soin. Nous, c'était un parcours un peu à rebours qu'on cherchait.
Ouais.
Et du coup, on s'est inscrites ensemble puisque notre pratique se fait à deux. On s'est inscrites dans une formation belge qui correspondait bien à nos attentes. Et là, on est parti pour une formation un peu longue, avec un bon socle, justement, thérapeutique, pour pouvoir, finalement, en t'en parlant, je me rends compte que ça venait répondre à cette préparation nécessaire pour aller improviser auprès de personnes très vulnérables ou en situation de grande souffrance.
Est-ce que tu as douté de cette envie d'être clown ?
Je ne crois pas avoir... douté de l'envie d'être clown, mais par contre avoir été dans le flou de la forme que ça pourrait prendre professionnellement.
T'as jamais douté que t'avais envie d'aller par là, et juste il fallait que tu dessines les contours de ton envie, en fait.
Voilà, c'est ça, de trouver une forme, de me dire est-ce que ça peut cohabiter avec mon identité d'orthophoniste, est-ce que c'est... comment je peux en vivre aussi ? Ça, c'était un gros doute, parce qu'en fait, c'est compliqué d'être payé pour être clown. Comment est-ce que je peux aussi en parler de façon sérieuse ? Parce qu'en fait, il y a énormément de représentations sur ce qu'est le clown. Et donc, creuser aussi la question de ce qu'est le clown pour moi et de la façon dont je veux le pratiquer. Ça a été du travail.
Typiquement, je me dis que ça, c'est le I de intention. Ton intention, c'est de transmettre quelque part le sérieux du clown. Peut-être que c'est pas une bonne formulation. Est-ce que tu saurais formuler une meilleure intention que ce que j'ai dit ?
Eh ben, je crois que c'est effectivement de transmettre la puissance plutôt de l'outil clown. Et de combien en allant pratiquer ce clown et creuser cet exercice, on peut ouvrir des parts de notre être soignant. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu cette opportunité aussi, avant ma formation, de faire un DU de pédopsychiatrie dont le thème était la créativité comme levier thérapeutique. Là aussi, c'est des trucs... qui sont incroyables, je trouve, quand on est dans sa voie, de voir combien des choses inattendues s'ouvrent. Ce colloque, ce DU est proposé à Rennes, là où je vivais, et ça coûtait 2 000 €. Et j'appelle la professeure qui avait mis ce truc-là sur pied, et en fait, elle m'a proposé de le financer aux trois quarts, parce qu'elle a senti aussi que j'étais hyper motivée pour le faire le lien avec le clown. Ça m'a permis d'écrire un petit mémoire sur la créativité de l'orthophoniste quand le clown s'invitait. Je pense que ça s'est enraciné là-dedans, mon intention. Ouais. Mon envie, elle est là. Il est là, parce que c'est vraiment la puissance de ce que le clown peut déployer dans la relation, à travers une écoute qui est bien au-delà de techniques d'écoute, mais plutôt dans une posture d'être en relation.
Et est-ce que aujourd'hui tu es toujours orthophoniste ? Comment ça se passe, cette transition ?
Ouais, la transition, elle est pas elle n'a pas été toute simple, c'est-à-dire que j'ai fait cette formation de clown, mais finalement, en France, il n'y a pas de statut officiel de clown. Enfin, il y a le rire médecin qui est assez connu et cadré, mais se présenter en tant que clown, ben, il faut sans cesse se définir et décliner un peu quel type de clown et la façon dont on veut l'offrir. Et puis, quand on est orthophoniste, on ne peut pas être auto-entrepreneur. Donc, pour pouvoir déployer cette activité de clown, il a fallu que je quitte mon statut d'orthophoniste. Donc, il y a eu un moment où la vie et le système administratif m'ont invité à enraciner mon projet dans ce que je suis, sans chercher ni la légitimité de la communauté des orthophonistes, ni la légitimité du côté d'un statut clown officiel. Et je pense que ça m'a mis dans des états parfois un peu douloureux, parce qu'il fallait que j'aille sonder mes reins, quoi, ma solidité, aussi la solidité de mon envie. Est-ce qu'elle résiste à ça, et comment je peux me donner moi, soit arrêter de chercher une légitimité à l'extérieur de moi en essayant de trouver la force de créer quelque chose d'un peu inédit. Donc aujourd'hui, je me sens très, très concernée par la question de la prévention en orthophonie et en fait par la question du langage chez des tout petits qui ne parlent pas encore, et puis, ou alors chez des personnes qui portent un handicap ou qui sont vieillissantes et qui ne parlent plus. Ou qui ne parlent pas encore. Enfin, disons que ce qui m'intéresse, c'est un peu le début et la fin de la vie, avec tout ce que ça engendre de mobilisation de l'entourage, justement en relation, pour soutenir, pour rejoindre et pour communiquer avec des personnes qui n'ont pas encore les mots ou qui ne les ont plus. Et donc, c'est avec ma casquette d'orthophoniste que j'aborde ça, mais je le fais de façon... j'ai envie de déployer quelque chose de plus collectif, toujours parce que je pense que de mettre des gens concernés par des mêmes situations en relation leur permet de partager toute leur créativité autour des solutions qu'ils ont trouvées dans ce qui les caractérise de façon très singulière, et qu'en même temps, regrouper des personnes permet aussi de les mettre en réflexion sur des problématiques ou sur des caractéristiques de développement, par exemple pour l'enfant, qui sont assez universelles. Et du coup, je suis un peu dans la création et dans la formulation de ces espaces-là, collectifs, pour des parents, pour des professionnels de la petite enfance, pour des aidants, où on puisse se mettre en réflexion autour de ce que c'est le langage, avant que les mots n'émergent, ou après que les mots... ce sois-tu.
Génial, c'est qu'on voit que ton envie, elle est en train de remodeler ce que tu avais déjà comme bagage dès le départ, quoi, de donner une nouvelle direction, un nouveau souffle à ce que tu faisais déjà, quoi.
Ouais, et de l'ancrer. En fait, c'est vrai que avoir cette casquette de clown, enfin en tout cas cette pratique du clown, a donné une épaisseur à mes intuitions, qui sont que quand un enfant arrive pour une demande de prise en soins orthophoniques, souvent, le système autour s'est configuré pour le faire parler, entre guillemets, et le faire bien parler. Donc il y a quelque chose qui se concentre sur une forme d'apprentissage du langage, alors que le langage, en fait, on est programmé pour dans notre espèce humaine, et quand tout va bien, ça se déploie assez naturellement. Et quand ça ne va pas, j'ai l'intuition qu'il faut un peu désinvestir les mots pour retourner à ce qui en fait le socle, c'est-à-dire la relation et l'interaction. Et l'interaction qui peut passer par des formes non verbales. Et qu'en prenant soin de tous ces socles du langage, que sont le regard, l'imitation, respirer ensemble, être là, être avec, tout ça, ça donne une conscience à l'autre qu'il existe pour moi, qu'il est une personne qui peut
s'exprimer, s'adresser à moi, quelle que soit la forme, qui est douée d'une intention justement, qui est douée d'une, qui a des choses à dire et qui peut rentrer dans la compréhension de à quoi ça sert le langage. Parce que comprendre à quoi ça sert et avoir un contenu à transmettre à l'autre, parce qu'on est dans le plaisir de la relation, fait qu'on va se
mettre à parler. Pression. Enlève la pression de la formulation des mots qui est secondaire par rapport à avoir envie d'échanger. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est une trop belle envie que tu nous as partagée, Annie. C'est un échange très riche.
Ah oui.
Je te remercie beaucoup. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans cette interview, c'est d'entendre ta voix que je trouve vraiment très, très belle. Oh. Et donc, j'ai vraiment envie de l'entendre chanter. Parce que moi, je chante toutes les semaines et je me dis, est-ce que toi, tu as une chanson que tu voudrais nous chanter? Déjà, est-ce que tu serais d'accord pour chanter? Et est-ce que tu as une chanson qui parlerait de notre échange ou une chanson qui est importante pour toi en ce moment ou qui te plaît ou que tu as envie de transmettre?
Bah, carrément, avec plaisir. Parce que le clean, c'est, pour moi, c'est aussi partir de ce qui est. C'est vraiment rejoindre ce qui est là maintenant sans avoir d'intention pour l'autre ou pour la situation et puis créer à partir de là. Alors, je te propose une chanson qu'une de mes amies m'a fait entendre un jour quand on parlait de clown et je me suis dit « Ah, mais c'est trop beau, c'est ça pour moi !» C'est une chanson de Lior Chouve et ça fait comme ça. Chante de là où tu es, tu sais pas vers où tu vas passer après. Alors chante de là où tu es. Chante de là où tu es, tu sais pas vers où tu vas passer après. Alors chante de là où tu es. Chante tes tendresses et chante ta rage. Chante tes rencontres et les voyages. Les coins de rue, les petits passages. Chante pour les fous, chante pour les sages. Chante de là où tu es. Tu sais pas vers où tu vas passer après. Alors chante de là où tu es.
Merci Fanny. Trop contente. Trop contente. C'était vraiment trop intéressant. Merci beaucoup pour ce partage de ton envie. Je me dis que ça s'adresse à des personnes peut-être qui sont aussi dans des transitions entre le métier qu'ils exercent actuellement et une envie qui pourrait un peu bouleverser ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, je me dis que c'est passionnant pour eux de pouvoir écouter ton expérience, ton partage et ce que tu es en train de vivre en ce moment. Alors, merci beaucoup, Fanny. Et je vous dis à jeudi prochain.
Au revoir.